trouve tous dans les Romains, premier et deuxième chapitre. Donc le premier passage, c'est dans Romains 1, à partir du verset 20 et 22. En effet, nous dit la parole de Dieu dans Romains, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le deuxième passage, c'est dans le verset 14. On remonte un petit peu dans le chapitre 1er, versets 14 et 15. Non, pardon, 2, 14 et 15. Quand les païens qui n'ont pas la foi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. Et le dernier passage, c'est en Romains 1, on revient dans Romains 1, à partir du verset 16 à 18. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Ce matin, j'aborde la question de la révélation. Quand on parle de révélation, ça veut dire qu'on reçoit quelque chose, une connaissance qu'on ne connaissait pas, qui est nouvelle pour nous, et qui nous est révélée. Et là, on aborde trois types de révélations que la Bible mentionne, et j'aimerais que vous puissiez me souffler la réponse à cette question. Quels sont, à votre avis, dans les trois passages que nous venons de lire, les trois types de révélations par lesquelles Dieu agit pour nous parler, pour nous révéler qui il est, pour nous révéler qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons agir, etc. Alors, je vous écoute. La création. Alors, c'est effectivement la première que j'ai prévue là, création. Alors, je l'appellerai la nature, hein, pour être très général. Donc, la première révélation, c'est au travers de la création, au travers de la nature. La deuxième révélation, deuxième moyen de révéler qui est Dieu et qui nous sommes. La parole, alors je la mettrai en dernier, donc l'écriture. Alors quand on parle d'écriture, c'est au singulier quand c'est la Bible, et quand on cite les 66 livres, bien sûr, il y a 66 livres, c'est les écritures, donc voilà, c'est la Bible, si vous voulez, qui est l'écriture. Voilà. Alors il me faut encore un autre type de révélation. Pardon ? Alors la loi, on y reviendra. La conscience, tout à fait. Donc, la conscience. Voilà. Alors, je sais qu'on n'est pas très à l'aise avec la notion de conscience, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc, en fait, on patauge un petit peu dans la semoule au niveau de la conscience. Il y a un autre mot, peut-être, qui est important à signaler dans ce deuxième... Donc, ça, c'est les trois types de révélations hein, qui sont... mentionné dans la parole. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à la conscience aussi, qui est un peu lié à la conscience? La pensée, oui. Quelque chose qui résume la pensée plus autre chose. L'âme, oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, ici, il y a l'âme. Là, il y a le corps, il y a l'esprit. Vous voyez, vous avez à nouveau les trois. C'est ternaire, hein, voilà. Pardon? Le cœur, tout à fait. Le cœur. ça me permet aussi de vous dire que le cœur est dans l'âme, vous voyez, il n'est pas dans l'esprit. C'est bien quelque chose de différent. Le cœur au sens de, en anglais, alors je ne sais pas si toi qui es australien, mais anglais, core, C-O-R-E, c'est cœur ou core, the core business, the core, c'est le centre un peu, core, ça peut se traduire. Cœur des activités, ouais. Oui, dans business anglais, on utilise souvent core business, voilà, c'est le cœur, voyez, tout ce qui est à côté, l'entreprise s'en débarrasse parce qu'ils veulent rester dans le cœur. Donc, le cœur, c'est pareil au niveau de l'âme. Il y a tout un tas de choses, il y a l'émotion qui fait partie de l'âme, hein. Il y a la sensibilité qui fait partie de l'âme. Mais le cœur de l'âme, c'est ce qu'on a vu avec Soda Pop, hein. C'est ce qui est le sens de pourquoi je vis, vous voyez. Donc c'est l'intelligence, effectivement, c'est la pensée, c'est le raisonnement, c'est vraiment les valeurs que je porte, etc. Ouais, c'est le cœur. Donc c'est un concept qui est un peu global, mais qui est ce qui nous sommes, au fond de nous-mêmes, voyez, notre personnalité propre. Voilà. Ici, c'est l'écriture, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui agit, par révélation. Hein. Toute écriture est révélée par le Seigneur. Ouais, donc là, on a vraiment entre les mains un livre saint, au sens de, voilà, on ne va pas s'agenouiller devant, mais un livre qui est inspiré par Dieu. Ici, vous voyez, c'est plus notre cœur qui est touché, notre âme, notre personnalité. Et là, c'est la nature. Dans la nature, il y a aussi la chair. Vous voyez, on en a parlé. Voilà. Je dirais, c'est presque, on pourrait dire, un petit peu progressif dans ce sens-là, où là, c'est la nature, le cœur et la Bible. Alors, que nous apprennent ces trois éléments? On va commencer par le premier, la nature. Voilà. Donc c'est, je le relis, hein, pour que chacun puisse entendre la parole. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, l'ouvrage c'est l'œuvre de Dieu dans la nature. Hein. Vous regardez les étoiles, vous regardez l'univers, ou vous regardez l'infini, mon petit, c'est pareil. Ils sont donc inexcusables. Ça veut dire que les hommes, on ne parle pas des chrétiens, on ne parle pas des juifs, les hommes, dans la mesure où Dieu se manifeste au travers de la nature, de la création, ils sont inexcusables de ne pas croire en Dieu. Ce que dit la parole. Ils sont inexcusables car ayant connu Dieu, parce qu'on connaît Dieu, bon, vous voyez, la connaissance de Dieu, c'est, voilà, la totalité, c'est ça, mais ici, on connaît déjà Dieu, d'une certaine manière, dans son existence. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Voyez-vous? Et le gros problème ici de la nature, c'est l'idolâtrie. Vous voyez, quand on lit l'Ancien Testament, vous connaissez tous les vicissitudes du peuple d'Israël, qui est le peuple de l'Alliance, qui a été choisi par Dieu, qui a eu un contrat, une alliance avec lui, par Moïse. Ils tombaient dans l'idolâtrie, ils se relevaient, alors les rois aussi, pareil, hein, ils tombaient dans l'idolâtrie, ils se relevaient, ils tombaient, ils relevaient, ils tombaient, ils se 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 relevaient, ils étaient portés, ils tombaient, ils relevaient. Bon, vous voyez, c'est la nature humaine, mais ils étaient appelés à glorifier Dieu, mais ils l'ont mal fait. Bon, c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu ici pour apporter de l'aide. Jésus est venu, il a bien vu que ça... Voilà, ça ne collait pas, ils ne pouvaient pas y arriver. Mais l'idée, c'est de glorifier Dieu. Et d'ailleurs, dans le catéchisme protestant, il est dit que notre existence, le sens de pourquoi nous sommes là, c'est de glorifier Dieu. Voilà, de glorifier Dieu. Effectivement, si on n'a pas ce sens-là, bah, on cherche un sens. Comme le disait Michel, Sartre, c'est l'existentialisme. Effectivement, ils cherchaient du sens à l'existence. Et tous les philosophes cherchent du sens. Mais la Bible donne du sens. La Bible, c'est la sagesse par excellence, c'est la sagesse de Dieu. Donc ici, vous voyez, je termine ma lecture. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Vous voyez, dimanche dernier, c'était les actions de grâce, reconnaissance, pour que nous apprenions en chaque chose à rendre grâce, à être reconnaissants. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ouais. Effectivement, quand on perd le sens, on devient fou. On ne sait plus. Ouais. On relativise les choses, etc. Alors, ces deux révélations, hein, elles prouvent l'existence de Dieu. Elles ont pour objet de révéler l'existence de Dieu. C'est ce que dit la parole. Il est évident, et moi qui suis un scientifique et j'aime bien la science, quand je lis les savants, ils croient tous en Dieu. Sauf qu'ils ne le disent pas toujours. Ils le croient pour eux, parce que ça, voilà, dans certains milieux, ça ne dit pas. Parce que quand ils voient ce qu'ils voient, qui est bien plus extraordinaire que ce que nous voyons, ils ne peuvent que croire à une intelligence supérieure qui est Dieu. Bien sûr, après, on va donner un autre nom au Dieu de la Bible, mais ils croient en Dieu. Considérons, par exemple, les découvertes scientifiques factuelles, récentes, hein, sur le plan biologique, juste sur le plan biologique. Hein, je ne suis pas biologiste, mais il y en a qui sont là, je crois qu'ils sont biologistes. C'est pas, il est notre sœur Claudie. Elle est là, hein. C'est bien toi, Claudie. Non, parce que tu as un habit différent d'habitude. C'est très long. Voilà. L'ADN, par exemple. Vous connaissez l'ADN, hein, qui a été découvert récemment. Voilà. Voilà. L'ADN, c'est Hélice. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que c'était découvert, une cinquantaine d'années. Cet ADN, c'est un gigantesque système de codage d'informations, c'est de l'informatique, hein, si vous voulez, sauf que c'est l'informatique biologique. C'est un gigantesque système d'informations que certains qualifient de langage et que d'autres comparent à un livre. C'est pour ça que j'appellerais ça bien les trois livres, vous voyez. Là, ce sont des livres, on verra tout à l'heure. Hein. Ce sont des livres, hein, qui révèlent des choses. Et cet ADN, hein, qui définit notre existence biologique, nos données biologiques, sont inscrits dans la nature et dans l'ADN que nous recevons de nos parents. Deuxième grande découverte scientifique biologique, c'est le moteur électrique bactérien. Vous connaissez ça, moteur électrique bactérien, qui est constitué parfois de plus de 30 protéines. Ce sont des pièces mécaniques soigneusement assemblées. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que... Qu'est-ce qui a découvert le moteur électrique? Je ne sais plus. C'est Watt ou... Voilà. Tesla? Ouais, peut-être Tesla. Le moteur électrique qu'on a aujourd'hui, hein, moteur électrique, on ne peut plus se passer de moteur électrique. Hein. Bah, dans la nature, c'est inscrit depuis la création, moteur électrique. On a des petits moteurs qu'on voit quand on regarde avec le microscope électronique, hein, qu'on n'avait pas avant. Ça existait, mais on ne le voyait pas. Sauf que maintenant, c'est révélé. Et vous voyez, on parle de révélation. Eh bien, c'est un petit moteur électrique qui tourne, comme un vrai moteur. Hein. Voilà, c'est un petit moteur comme ça, tac, 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 tac. Alors, bien sûr, microscopiquement, hein, on le voit. Et qui tourne comme un moteur électrique avec des impulsions, plus, moins, etc. Et donc, on n'a rien inventé. Hein. On a simplement découvert, maintenant que ça existe, ça, bon... Grâce aux nous savants, l'électromagnétisme, on a pu le faire, mais Dieu l'a fait avant nous. Les nanorobots, vous connaissez les nanorobots? Les nanorobots bactériens qui s'occupent du bon fonctionnement des cellules vivantes. Alors si vous dessinez dans la nature humaine admettons que ce soit des atomes comme ça, millimétriques, on arrive à créer des nanorobots maintenant, voilà, des nanorobots qui sont injectés par une attaque. Ils doivent attaquer certains, par exemple pour le cancer, on utilise ça pour le cancer. Au lieu de faire de la chimio qui détruit le bien et les mauvais, donc après les mauvais, il faut les réparer. Et ça, les mauvais, il faut les réparer. Là, par exemple, on perd les cheveux, les machins, etc. Parce qu'ils détruisent tout. Sur le tissu, ils détruisent tout, le bon et le mauvais. Ils détruisent le cancer, mais ils détruisent aussi autre chose. Alors que les nanorobots peuvent attaquer juste ce qui est mauvais. C'est-à-dire on leur injecte un programme en disant tac, tu attaques juste le cancer. Les cellules mauvaises, si vous voulez, les cellules qui se prolifèrent, etc. Voilà, on en est là. Et donc on a utiliser cette technique en voyant comment fonctionne la biologie pour pouvoir la limiter et puis lui donner une possibilité d'agir de cette manière-là. Donc voilà toutes les découvertes scientifiques factuelles dans le monde du vivant, sans parler de toutes les autres. Je ne vais pas faire le panégyrique de tout ce qu'on a découvert au niveau de la création. Ces découvertes font quoi ? Eh bien, elles nous poussent à nous interroger sur leur origine. Est-ce que ça s'est fait par hasard ? Est-ce qu'en considérant l'ADN, nous nous posons la question de ce livre, peut-il s'écrire à partir de rien ? Est-ce que vous avez déjà vu un livre qui s'écrit à partir de rien ? Hello ? Pas que ce livre. Hein. En général, il y a un auteur. Ben, quand on est censé, on considère qu'il y a un auteur de livre. Okay. Donc si vous voyez le livre de la nature qui s'ouvre à nous, la pensée sensée, logique, simple, c'est-à-dire il y a un auteur, quelqu'un qui a écrit ça. Certains commentateurs scientifiques s'interrogent par un raisonnement absurde. Ils disent, les organismes vivants s'inspireraient-ils des inventions de l'homme ? Non mais, vous voyez où il faut arriver. C'est-à-dire que ça, vous le découvrez, vous découvrez le moteur électrique, et vous dites, ah, là, ils ont copié sur Watt, là. Hein, tu vois, vous voyez, voilà, comme par hasard, ils ont copié sur ce qu'on a découvert, que les hommes ont découvert. Donc c'est les hommes, finalement, qui sont les dieux, quoi. Ouais. Et imaginez que ces bactéries-là, ça existe depuis l'origine de l'humanité. Donc on est obligé de tordre les choses. Un tel raisonnement révèle soit un état d'ignorance, si je ne vous l'avais pas révélé ce matin, vous ne l'auriez pas su, moi hier soir je ne le savais pas non plus, je l'ai appris, parce que je me suis inspiré d'un texte, ou soit une attitude hypocrite, qui refuse d'y voir l'évidence d'un créateur. Leur a priori athée ou agnostique leur servent d'excuses pour nier la réalité objective d'une origine divine, d'un caractère éternel de ce créateur. Je crois qu'on peut dire qu'un dessein intelligent, divin, éternel, peut être à l'origine de la création. Alors, quelque chose qui n'est pas trop connu dans le monde francophone, c'est l'intelligent design. Quels sont ceux qui ont entendu parler de l'intelligent design ? 2, 3, 4 personnes. Le dessin, traduit en français, dessin intelligent. Alors, je signale quand même que les personnes qui ont levé la main, ils sont anglo-saxons. Enfin, pas Ruben. Mais bon, lui, c'est un scientifique. Je respecte et qui s'informe beaucoup de choses. Mais, vous voyez, les Français ne savent pas. Dessin intelligent. C'est quoi ça ? Le dessin intelligent, intelligent design. Eh bien, c'est pour parer les critiques qui sont venues par l'évolutionnisme. Hein. Je ne vais pas vous parler de celui qui a créé l'évolutionnisme. Hein. Et je ne suis pas là pour critiquer, mais l'évolutionnisme, ça veut dire que la création évolue en fonction des besoins. Voilà. D'un seul coup, il pousse les ailes parce que il a envie de voler ou il a besoin de voler, etc. Voilà. Mais il ne reste pas non plus créationniste. Les créationnistes, purs et durs, et tout ça, ils se discréditent totalement. Donc en fait, ils ne sont pas dans un dualisme ou évolutionnisme ou créationnisme, c'est le dessein intelligent. Le dessin intelligent, c'est une pensée développée par les pays anglophones qui a élaboré un raisonnement rationnel qui appuie l'idée d'un être intelligent, auteur de l'apparition de la vie sur Terre. La pensée de ce mouvement remet en question le paradigme de l'évolution, tel qu'il est enseigné dans les écoles et les universités aujourd'hui. Par certains aspects, comme la complexité irréductible, il sous-entend une création originelle des bactéries. Donc les fameuses bactéries, elles ont une création. Et il interpelle sur l'idéologie d'une évolution conduite par le hasard et sans finalité. Malheureusement, il ne statue guère sur une capacité évolutive des organismes vivants tels que les promoteurs évolutionnistes souhaitent l'imposer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas à chercher à expliquer, parce qu'on, ce que je dirais tout à l'heure au niveau de la parole, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, c'est pas pour autant qu'elles sont vraies. Simplement, on ne comprend pas. Et petit à petit, on comprend des choses, et on comprendra tout quand on sera avec le Seigneur. On dira, ah, je n'avais pas compris ça. Okay ? Parce que les choses cachées sont à l'Éternel. Ne cherchons pas à les dévoiler avant le temps. Ceci étant, le design, intelligent design, dessin intelligent, pose le postulat que c'est Dieu qui a créé la vie, qui a créé les choses. Maintenant qu'il peut y avoir des évolutions, c'est évident, des petites évolutions, mais pas d'évolution d'une espèce à une autre, juste comme ça, parce que ça c'est bien marqué. Vous voyez, c'est pour amener le débat intelligent sur la question d'être dualiste, les créationnistes et les évolutionnistes, et on se bagarre, et on se tape dessus, et voilà, etc. Ça, c'est primaire, viscéral, et ça n'apporte rien. Là, on arrive déjà à quelque chose qui dit, bon, on ne peut pas tout expliquer, il y a peut-être aussi à l'intérieur de certaines espèces, certaines évolutions, voilà, mais ça ne remet pas en question la nature créationnelle du Dieu qui a tout créé au départ. Amen. Deuxième volet, deuxième livre, c'est la conscience. Le livre de la conscience. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Je relis l'écriture. Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Vous avez déjà médité sur ce passage ? Un passage que j'aimais beaucoup quand je me suis converti dans les groupes bibliques universitaires. On a beaucoup médité sur Romains. D'ailleurs, c'est Romains qui a amené Luther à la conscience qu'il a connue par la suite, hein, de la révélation de la parole du début jusqu'à la fin. Alors Paul nous apprend dans ce passage que tout homme a une conscience, tout homme. C'est la particularité d'ailleurs, la spécificité de l'homme par rapport à l'animal. L'animal n'a pas de conscience. L'homme a une conscience. Et on verra ce que ça veut dire, quelle est la conclusion de cela. Donc, tout homme a une conscience qui lui permet de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Voyez-vous, la conscience renvoie à la capacité de discerner le bien du mal. Un chien, il ne sait pas discerner, il ne peut pas faire un discours de philosophie sur le bien, le mal, parler de ça, etc. Okay ? Donc, la conscience permet de distinguer le bien du mal. Donc, ça renvoie à ces deux arbres. Vous vous rappelez ? L'arbre de vie et l'arbre du bien et du mal. Qu'est-ce qu'à partir de là, on peut déjà conclure de manière péremptoire ? Pourquoi l'homme et la femme, qui est un symbole d'humanité, quand ils ont mangé l'arbre du bien et du mal, eh bien, d'une part, ils ont péché. Et le péché conduit à la mort. Ça, c'est intéressant, ce livre, le livre de la conscience. Parce qu'il nous explique pourquoi on meurt. Josué, tu sais pourquoi tu meurs ? Hélène, tu sais. Pardon ? Voilà, parce qu'on est pécheurs. Et, mais les hommes. Quelle est l'explication qu'il donne à la mort ? Aujourd'hui, si vous prenez un micro, vous allez voir un Français, il dit « je m'en fous ». La plupart du temps, il dit « je m'en fous ». Je vis, et puis c'est tout, voilà. Bon, c'est une façon élégante de dire « je ne sais pas », parce qu'il ne te donne pas de réponse. Ce n'est pas une réponse de dire « je m'en fous ». Ou « ça m'est égal », ou voilà, il peut être très poli, il peut vous le dire avec un geste de grande augure, mais il ne sait pas. Vous voyez, là, on a la réponse, le péché. Le péché conduit à la mort. Alors, bien sûr, le péché, c'est un mot interdit aujourd'hui. Vous dites un Français, il a péché. Imaginez la réaction, je veux dire. On vous envoie au Moyen-Âge. Hein, il n'existe plus, le péché. Toujours est-il que la parole de Dieu, on verra après, le dernier livre, c'est ce qui nous explique. Donc, revenons à l'arbre, la vie, le bien et le mal. qu'est-ce qu'il a de particulier, cet arbre de la vie, du bien et du mal, par rapport à l'arbre de la vie ? L'arbre du bien et du mal, ben, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Bien sûr, le péché et la mort, on l'a dit, mais revenons à la racine. Pourquoi Dieu a dit, ne mangez surtout pas de cet arbre-là, parce que vous allez mourir. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Julie, tu as une idée ? Non ? Oui ? Ah, j'ai pas entendu la fin. Oui. Ouais. Pardon. Oui. Oui, tout à fait. Oui, vas-y, vas-y, donne l'explication. Oui, oui, bien sûr. T'as raison. Non, c'est Satan, ça. Non, ça, c'est Satan. Ouais. Il y a Genèse 1 et 2, c'est la création parfaite, et Genèse 3, c'est la chute. Donc, dans Genèse 3, il y a ça, mais on est dans la chute, là. On est dans l'homme qui, voilà, et la femme qui succombe à la séduction de Satan. Hello? Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que c'est des grands débats théologiens, ça, qui ont ouvert des ponts entiers de discussions. Est-ce qu'il était libre ou il n'était pas libre ? Non, je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Je pense qu'ils étaient libres au départ, mais ils n'ont pas fait le bon choix, à cause de la séduction. Mais il y a quelque chose, bon, je vais vous le dire, qui départage les deux arbres. En fait, l'arbre de la vie, il n'y a que le bien, c'est ce qu'a dit Jérôme, il n'y a que le bien. Parce que le mal, en fait, c'est pas une existence objective, c'est une existence spéculative. C'est-à-dire, c'est l'ennemi qui vous ment et qui vous entraîne dans la rébellion, puisque lui, il est en rébellion, et puis Dieu l'a condamné, parce qu'il y a le jugement. Faut pas oublier. Donc, l'ennemi qui est jugé par Dieu pour sa rébellion, eh bien, il est dans la malédiction. Donc, c'est la malédiction. Le mal, c'est la malédiction. D'ailleurs, quand vous priez le Notre Père, vous dites, délivre-nous du malin ou du mal. Le malin, du mal et mal est lié au malin. Ok, c'est clair. Et certains, moi, souvent, je prie, délivre-moi du malin. Parce que le malin est à l'origine du mal. Donc, le malin, ici, il veut faire croire que le mal existe. Comme une réalité objective. Et c'est toute la séduction de l'ennemi. Satan, chapitre 3, il va voir la femme, voilà, qui lui dit, tu sais, tu n'as pas vraiment dit. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit, vraiment dit. Hein? Mais si tu en manges, tes yeux s'ouvriront. Ah, c'est quoi tes yeux ? Ben, aujourd'hui, on sait ce que c'est le troisième œil. Hein? Bon. Tes yeux s'ouvriront sur des mondes parallèles, sur des choses que tu ne... Et en fait, c'est des mondes qui n'existent pas. Hello ? Parce que l'ennemi a la capacité de vous entraîner dans des mondes parallèles. Et c'est ce qu'aujourd'hui on appelle le Nouvel Âge, et qui tente beaucoup les chrétiens. Donc ici, le mal, et la particularité de ce mal, du bien et du mal, tu veux dire quelque chose ?
Est-ce que, en ma question, c'est est-ce qu'on peut dire qu'il y a un arbre qui est l'arbre de la séduction, du coup, et l'autre de l'autorité ? C'était l'arbre de l'autorité. Et comme si on pouvait opposer, en fait, enfin moi je percute là, comme si on pouvait opposer la séduction, le pouvoir par la séduction et le pouvoir par l'autorité.
Génial, Charles. Absolument, absolument. La séduction, c'est de vous entraîner vers quelque chose qui n'existe pas, mais qui vous perd totalement et qui vous entraîne dans la mort. Okay ? Et qui vous entraîne loin de Dieu. Ça, c'est clair. Le mal est quelque chose qui existe au sens que Satan existe, mais qui n'a jamais été créé par Dieu. En Dieu, il n'y a pas de mal. Dieu est bon. C'est pour ça que j'aime bien les chants qui proclament que Dieu est bon. Et sa bonté dure à jamais. Voyez-vous, il faut qu'on soit appuyé, notre conscience doit être appuyée sur un rocher que Dieu est bon, que Dieu est bon, que Dieu est bon. Amen. Et dès qu'on glisse vers le mal, et vous savez ce que font ceux qui aujourd'hui promeuvent l'arbre du bien et du mal, si vous voulez une caricature, vous allez vers tout ce qui est la cabale juive ou la cabale chrétienne, mystique chrétienne, qui est l'alchimie. L'alchimie, c'est ce que les hommes utilisent aujourd'hui pour fusionner. Vous voyez, ils voulaient fusionner les métaux pour faire l'or. Mais au niveau spéculatif, ils fusionnent le bien et le mal. Ils fusionnent les choses pour arriver à devenir Dieu. Cet arbre-là, c'est pour devenir Dieu. Et c'est ce que dit Satan. Satan, il dit, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Et donc, c'est une séduction absolument profonde et fondamentale que si la conscience, on commence à se laisser influencer par le mal, par l'existence du mal, on commence à perdre pied. On commence à perdre l'équilibre de notre être. Et c'est ce que fait aujourd'hui le monde. Michel a parfaitement parlé de la relativisation. On relativise. On relativise. On est déjà dans l'arbre du bien et du mal. On relativise. Dieu est absolu. Et le bien, il est absolu. Et la bonté de Dieu est absolue. Pardon ? Si vous êtes contre une culture, vous détruisez la culture. Hein, même s'ils coupent les têtes ou réduisent les têtes, il faut le garder, cette culture. Oui. Et c'est ça l'humanisme. L'humanisme, c'est d'être dans cette rubrique du bien et du mal. Alors bien sûr, le péché, on n'en parle plus du tout, parce que c'est démodé. Parce que c'est le seul moyen de retrouver l'arbre de vie. Hein. C'est Jésus, il est venu pour que le péché soit détruit et qu'on puisse retrouver l'arbre de vie. Amen. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les chrétiens qui affirment l'autorité de l'écriture et de contenu, eh bien, ils sont foutus.
Il y a un truc qui m'interpelle aussi par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que, quelque part, les deux fruits, la connaissance du bien et la connaissance du mal, sont tout aussi mortels, parce que, en fait, connaître le bien sans connaître Dieu, ça conduit à la mort. Puisque Dieu seul est la mort et Dieu seul pardonne. Donc, le diable a voulu aussi séparer quelque part que les hommes le diable a voulu les séduire par la connaissance, que ce soit la connaissance du bien ou la connaissance du mal, séparer de la connaissance de l'arbre de vie. Et donc, si on cherche la connaissance, même la connaissance des bonnes choses, sans connaître Dieu, ça conduit à la mort aussi.
Voilà, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est toujours quelque chose de bien qu'on pousse trop loin, et à ce moment-là, ça devient une idole. C'est qu'on adore le créateur, la création, au lieu du créateur. Ouais. Donc ça, c'est l'idolâtrie. Merci Philippe. Je termine. Si l'homme est capable de discerner le bien du mal, vous voyez, si l'homme peut séparer le bien du mal, ça veut dire qu'il est responsable de choisir le bien et de repousser le mal. C'est ce qu'on a dit, marcher par l'esprit et pas par la chair. Donc, une capacité. Eh bien, si l'homme est capable de discerner, il est en droit de se poser la question, est-ce qu'il existe un législateur ? Législateur, c'est celui qui fait les lois. Alors, on revient à la loi. Je sais que quelqu'un l'a cité, la loi. Effectivement, la loi est au cœur de la conscience. La loi. Effectivement, si aujourd'hui il n'y avait pas de loi en France, dans aucun pays, ce serait un état sauvage où tout le monde fait ce qu'il veut. Or, on sépare ce qui est bien, les législateurs ils disent ça c'est bien, alors on peut discuter certaines choses aujourd'hui, comme l'avortement et tout ça, mais jusqu'à présent, dans un logique chrétienne qu'on était, le bien, c'est-à-dire le reste, les gens, ils vont en prison. Ils sont arrêtés, ils sont jugés, ils vont en prison. Et donc, on fait bien la différence. Et c'est la particularité des hommes par rapport aux animaux. Vous avez déjà vu chez les animaux où il y a un parlement, où ils décident du bien et du mal, etc. Hein, voilà. Ben non, ils défendent leur terrain. Hein, et si vous rentrez dans leur terrain, vous êtes mort. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'instinct animal. Hein, bon. L'homme retourne à l'état animal un petit peu, puisqu'il ne veut plus la parole de Dieu. Donc, vous voyez, la loi. Et c'est ce que dit ce texte. Ils font naturellement ce que prescrit la loi. OK. Les païens font naturellement ce que prescrit la loi. Donc, ils prouvent que Dieu est législateur. Mais à partir du moment où vous acceptez qu'il y a un législateur, ça veut dire que vous acceptez ce qui est Dieu. Or, c'est pour les athées, c'est pas acceptable. Donc, du coup, on repousse. Vous voyez. Il faut que j'aille vite parce que je m'étends trop sur ces points-là. Dernier point, la révélation inspirée par la Bible dans Romains 1, 18. Je n'ai point honte de l'évangile, dit l'apôtre Paul. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La différence entre les Écritures, ou l'Écriture, hein, qui est inspirée de Dieu, hein, voilà, qui a commencé par Moïse, ensuite après Jésus avec ses enseignements sur le sermon sur la montagne, c'est que les deux premiers livres révèlent l'existence de Dieu. Mais ce livre-là donne le sens. Vous voyez, ça va plus loin. Ici, il donne le sens. Le sens. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va? D'où est-ce qu'on vient? Où est-ce qu'on va? Genèse, Apocalypse, d'où est-ce qu'on vient, origine, où est-ce qu'on va. La fin, ce qu'on appelle l'eschatologie, les choses de la fin. Okay, bon. Donc, on a le sens de nous, ça nous donne sens, ça donne un sens à l'humanité, où est-ce qu'elle va, ça donne du sens, voyez-vous, donc ça va plus loin. Effectivement, là, c'est par la foi. Hein, là, c'est une évidence que tous les païens peuvent reconnaître. Ici, effectivement, il faut la foi, parce qu'on ne peut pas le démontrer. Ici, vous pouvez le démontrer. Vous pouvez démontrer que Dieu existe. Vous pouvez démontrer que Dieu a mis la loi dans la conscience. Parce que c'est pas des animaux et que tout le monde est scandalisé quand effectivement c'est contre tuer quelqu'un. Bon. À condition qu'on accepte la mort comme elle est. Mais ici, effectivement, c'est réservé aux chrétiens qui acceptent par la foi. Parce que la justification, vous pouvez pas la démontrer. La justification par la foi. Pourquoi est-ce que, Lynn, tu es juste en acceptant Jésus? Pourquoi, Hélène, tu es juste parce que tu acceptes Jésus dans ta vie? Là, on rentre dans la nouvelle naissance. On rentre dans l'acceptation de Jésus. On rentre dans l'acceptation du moyen que Dieu a utilisé pour sauver l'humanité. En envoyant son Fils qui accepte le péché, qui est mort et qui est ressuscité. Là, on rentre dans la foi. Non, on est d'accord. On ne peut absolument pas obliger un païen parce qu'on peut lui démontrer ça, on ne peut pas le démontrer. On ne peut que l'accepter. C'est accepter que Dieu n'accepte pas la nature corrompue de l'être humain et qui est passible de jugement. Donc là, il y a la notion de jugement qu'il faut accepter. Alors déjà, voilà, il faut l'accepter, qu'on est jugé parce que on rentre pas dans les critères de Dieu et que Dieu ne veut pas que dans son royaume il y ait des menteurs, des tueurs, des voleurs, des violeurs, etc. Voilà. Donc il juge, c'est la colère de Dieu, c'est pour ça on parle de la crainte de Dieu, et le plan du salut. C'est-à-dire que non seulement Dieu, bien sûr, est en colère, mais sa colère est venue sur son Fils. Sa colère s'est exprimée à la croix. Et quand vous voyez la croix, ben vous voyez la colère de Dieu qui vient sur son propre Fils. Et là, vous avez l'amour le plus parfait. Où son propre Fils, est-ce que vous donneriez votre Fils, votre propre Fils, à un bourreau nazi qui a tué vos parents, qui a tué votre femme, qui a tué les biens? C'est ça que Dieu a fait. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. Même les brigands sur la croix, même les tueurs et les voleurs. Vous voyez, ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Donc ce livre-là, effectivement, pointe vers la foi. C'est le problème moral. Dans tous les cas, il y a un problème moral. Parce que Dieu est un être moral qui n'est que dans le bien. Et nous, on devons discerner le bien du mal pour faire le bien, pour décider de faire le bien. Dans notre libre arbitre, notre volonté, nous devons décider de vivre le bien. Mais nous ne pouvons le vivre que par la puissance du Saint-Esprit. Et là, c'est effectivement tout ce que Jésus a fait, Quand il est parti, il a donné son esprit pour que nous puissions vivre cette vie en choisissant de faire le bien et en renonçant à faire le mal. Amen.
Aussi la révélation par l'esprit dans le troisième parce que c'est vrai que même pour la connaissance de notre péché c'est lui qui convainc par l'esprit, donc on a besoin de cette révélation par l'esprit aussi
C'est tout le chapitre 3 de Nicodème. Nicodème dit voilà, Père, Jésus, je voudrais maître, je voudrais voilà savoir pour aller dans le royaume. Il a dit, il faut que tu rentres dans le ventre de ta mère et que tu ressortis. C'est pas possible, c'est quoi ça? Oui, mais c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient sur toi, il te convainc de péché, de justice et de jugement, toujours là. Il te révèle que Jésus a effectué ça à la croix et maintenant tu peux être libre. Donc effectivement, c'est le Saint-Esprit qui est le paraclet, qui est celui qui remplace Jésus, c'est l'avocat, qui en a et tout. À la place de Jésus, et vous êtes avantageux, a dit Jésus, que je m'en aille, parce que je vous donnerai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la troisième personne qui nous aide à rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Je n'ai pas le temps ce matin, j'avais prévu tout un autre volet pour vous montrer comment l'ennemi tord tout ça. Ici, c'est l'ésotérisme qui tord l'écriture, et on est en plein dedans. Ici, c'est la conscience qui est tordu, qui est relativisé, etc. J'en ai parlé un peu. Et là, c'est tout ce qui est alchimique, qui veut que l'homme devienne Dieu, parce qu'il ne peut pas nier ce que Dieu a fait, par contre, il peut le tordre. Et l'ennemi, en tordant les choses, eh bien, il tord l'humanité, il prépare la venue de l'Antichrist. Et nous sommes dans ces temps-là, il faut nous réveiller. Il faut savoir que nous devons, pour tenir debout, il faut que nous soyons alignés sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a fait, sur l'histoire dans laquelle Dieu nous emmène. Et être vigilants, vigilants comme pas possible, parce que nous sommes entourés de pressions qui veulent eh bien, détruire ces livres, ces trois livres. Juste un mot sur la conscience, les satanistes qui sont extrêmes, à adorer Satan, eh ben, ils détruisent la conscience en vous faisant manger des excréments, en faisant tuer des gens, etc., pour que le jour où vous avez une mission, vous n'ayez plus de conscience et que vous le fassiez comme un robot. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu dans les différents drames qu'on a vus chez les satanistes. Sans aller jusque-là, ça commence tout petit, mais ça s'étend en ce moment. Et il faut être vigilant, mes amis. Vigilant, parce que nous avons trois livres. Et il faut que nous puissions reconnaître que ces trois livres nous parlent. Et que nous soyons eh bien, sur nos gardes de ce que le monde en ce moment est en train de faire pour nous entraîner à la chute et à la rébellion. Seigneur, nous te prions afin que tu nous aides. Tu nous aides dans ces temps difficiles, comme les premiers chrétiens qui étaient confrontés au gnosticisme. La gnose, c'est la connaissance secrète des choses. Seigneur, nous aussi, nous sommes revenus à ces temps de séduction. Et nous te demandons ta grâce, te demandons ton aide, te demandons ton secours, et particulièrement celui de ton esprit, pour nous garder et nous préserver du malin, afin que nous puissions, Seigneur, rester des témoins de ta lumière, témoins de ta grâce, témoins de l'authenticité de ta parole, témoins, Seigneur, que le bien, c'est le bien, et le mal, c'est le mal, et qu'on ne peut pas les mélanger. Seigneur, témoins de toutes ces choses pour te glorifier et glorifier ton nom. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.